Et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour à vous,
Eh bien,
Xavier.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, l'Inde et ses femmes qui défendent leur droit d'entrer dans les temples hindouistes.
Exactement. Oui, on attendait une décision de la Cour suprême indienne, mais elle vient de la reporter hier, hein, ce jugement définitif sur l'accès aux femmes dans les lieux sacrés. En cause, c'est le temple d'Ayyappa, dans le Kerala, au sud du pays, objet d'une âpre dispute judiciaire et de violentes manifestations, mais aussi enjeu politique pour le parti hindouiste nationaliste au pouvoir, le BJP. Bonjour Virginie Dutoya.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone. Vous êtes chercheuse CNRS au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. Alors, le contexte, c'était des semaines de manifestations depuis que deux femmes ont pu entrer sous escorte policière dans ce temple dédié à une divinité chaste et donc interdit aux femmes en âge de procréer. En fait, c'est la Cour suprême, donc en septembre, qui a levé cette interdiction. Les juges, donc, qui interviennent dans les affaires religieuses, première remarque, c'est un jugement presque inédit en Inde, non ?
Oui, alors c'est vrai que l'intervention dans les rites, et notamment les rites hindous, je pense que c'est relativement rare. En revanche, la Cour suprême intervient régulièrement dans les affaires religieuses. Mais c'est vrai que jusqu'ici, ça avait été essentiellement dans des affaires de ce qu'on appelle le code personnel, donc dans des affaires liées au droit au mariage et au divorce. Hein, notamment, on peut penser à différents jugements sur les femmes musulmanes et leur droit à initier le divorce et leur droit à refuser le divorce et une pension. Donc c'est vrai qu'une intervention vraiment dans les rituels, c'est assez rare et jusque-là, c'était plutôt considéré comme dépendant de la liberté de pratique religieuse et aussi ouais. un droit important en Inde.
Et alors, avec des manifestations qui durent depuis le 28 septembre, depuis ce jugement de la Cour suprême, il y a eu une juge de la Cour suprême, Indu Malhotra, qui s'est prononcée contre, notamment parmi les arguments au titre qu'il y avait, par exemple, 1000 temples dédiés à cette divinité Ayyappa en Inde qui n'étaient pas interdits aux femmes. Comment ça se fait que ce temple d'Ayyappa ait cristallisé autant de passions et de pressions judiciaires aussi ?
Alors, clairement, c'est un temple sur lequel il y avait déjà eu un jugement dans les années 90 pour interdire l'accès de ce temple aux femmes. Donc, ça a été pendant longtemps, il y a une histoire de débats juridiques et rituels autour de ce temple, hein, puisque certains disent que, en fait, les femmes ont longtemps eu accès à ce temple et que c'est parce que certaines castes supérieures ont pris, le contrôle du temple, qu'elles ont cherché à exclure ceux et celles qu'elles jugent impures, et notamment les femmes en âge de procréer qui ont leurs règles. Et cette question finalement de l'impureté, elle est centrale pour comprendre les enjeux autour de l'accès au temple en Inde, puisque pendant longtemps, dès le début du XXe siècle, il y a eu des luttes pour l'accès au temple, notamment des communautés dites intouchables, on s'appelle aujourd'hui plutôt des Dalits, qui ont lutté pour avoir le droit d'accéder au temple parce que leur interdiction d'accès était le symbole de leur impureté, enfin de ce qui était considéré comme leur impureté. Et donc c'est un peu cette même logique en fait pour les féministes, c'est-à-dire de ce n'est pas tant l'accès au temple qui peut être important, puisque certaines d'entre elles ne sont pas particulièrement pratiquantes, ou en tout cas pas de ce rituel-là, mais de refuser plutôt le stigmate de l'impureté pour les femmes, qui est un stigmate qui a un certain nombre de répercussions beaucoup plus concrètes, on va dire, dans la vie des femmes au quotidien.
Et en tout cas, vous l'avez souligné, il y a eu une forte, vraiment impressionnante mobilisation des femmes avec une association sur place, Sabarimala, Adivasi Rights Restoration Committee, et puis cette chaîne féminine, on a dit 5 ou 6 millions de personnes sur 640 kilomètres au début du mois. Est-ce que vous diriez que la Cour suprême, de ce point de vue-là, a pris un jugement qu'on pourrait dire progressiste, un jugement de droit civique, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter ?
Clairement, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été mis en avant, que ce soit par la Cour suprême elle-même et par un certain nombre de commentateurs, Adélie notamment. Ça s'inscrit aussi dans toute une lignée de jugements qui se veulent ouverts aux droits des femmes, aux droits des personnes transgenres, aux droits des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, enfin, notamment aux homosexuels, etc. Donc il y a vraiment une sorte d'activisme juridique à ce niveau-là de la Cour suprême, bon, qui est discuté en Inde à la fois sur le fond et la forme, hein, parce que c'est vrai que la Cour suprême a pris un poids très fort dans la vie politique qui peut être discuté et discutable du point de vue de la démocratie, on va dire. Mais effectivement, la Cour suprême, en tout cas, là, s'inscrit vraiment dans une lignée de défense des droits dits libéraux, entre guillemets, vis-à-vis de certaines pratiques sociales.
Le deuxième aspect de cette affaire, c'est que les milieux politiques s'en sont mêlés, notamment Narendra Modi qui disait le 2 janvier « Sabarimala, c'est une affaire de tradition », tandis que le triple talak, qui était un autre jugement rendu par la Cour suprême dans le cadre des divorces par répudiation, là c'est une affaire d'égalité des sexes. Pourquoi est-ce que le BJP s'est emparé de cette affaire aussi vite ?
Alors, de toute façon, je pense qu'il s'en sera emparé, hein, puisque ça touche vraiment quand même à son cœur de cible, si on peut dire, la religion hindoue et un certain nationalisme hindou. C'est aussi intéressant de voir que là, le BJP est un peu pris à son propre jeu, puisque comme un certain nombre de partis d'extrême droite, d'ailleurs, il s'est positionné sur la défense des femmes musulmanes au nom de l'égalité entre les sexes. Mais du coup, ce paradigme d'égalité lui pose problème quand ça s'applique à l'hindouisme. Mais ça, c'est une première question. La deuxième, effectivement, on est dans un contexte politique un peu particulier en Inde, puisque les élections générales vont débuter d'ici quelques mois. Elles auront lieu au printemps. Et que le BJP, que pour le moment, tout le monde voyait plutôt gagnant, a connu quelques défaites aux élections dans quelques États cet hiver, où le BJP n'est pas sorti gagnant. Du coup, clairement, il y a une certaine inquiétude. Mais bon, on peut noter qu'un des opposants principaux du BJP a une position assez proche sur l'affaire du temple, le Congrès ayant plutôt aussi défendu l'interdiction du temple aux femmes.
Oui, au niveau local, justement, et au niveau local, cet État du Kerala, qui n'est pas un État BJP, un des rares, et même où le BJP est assez faible, 15%, il y a eu des accusations de la part du gouvernorat du Kerala de ce que le BJP était à la manœuvre hein, dans les manifestations, parce que notamment, il y avait un des groupes qui lui est affilié, le RSS, il a accusé de transformer le Kerala en champ de bataille. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le BJP pourrait faire du Kerala une de ses plateformes dans la campagne pour 2019 ?
Je pense que faire du Kerala une de ses plateformes, ce serait sans doute risqué parce que c'est pas un parti qui est très très bien implanté à ce niveau-là. Par contre, clairement, faire de l'affaire du temple de Sabarimala un symbole dans la campagne, ça c'est fort possible.
Et deuxième chose, est-ce que ça veut dire également que les lieux de culte et les affaires concernant les lieux de culte vont être un des éléments principaux de cette campagne ? Parce qu'il y a aussi une autre affaire de temple dont là, il doit être construit sur les ruines d'une ancienne mosquée, temple de Rama à Ayodhya. Et on sait que le BJP pousse pour sa construction en ce moment. Est-ce qu'il faut voir un lien, une stratégie, disons, cohérente ?
Je pense pas que ce soit forcément une stratégie cohérente. Il y aura d'autres enjeux dans cette élection, hein, notamment l'économie. Par contre, c'est vrai que le BJP n'a pas forcément un bilan aussi positif qu'il pouvait l'espérer sur les questions économiques. Donc, revenir finalement à ses bases, hein, puisque l'affaire dont vous parlez, c'est l'affaire de la mosquée Babri Masjid qui avait été détruite au début des années 90 et ça avait été un grand mouvement qui avait vraiment lancé le BJP, hein, qui est un parti très très ancien, qui date des années 80. Et du coup, ce retour de la question, hein, qui est un peu un serpent de mer de la politique indienne, il est plus à interpréter dans le sens d'une sorte de retour aux fondamentaux et l'affaire de ce temple Sabarimala permet aussi d'ajouter de l'eau à ce moulin. Est-ce que ce sera la ligne directrice de la campagne ? C'est encore à voir. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres enjeux. Ce serait sans doute risqué de la part du BJP de laisser de côté des enjeux plus concrets, on va dire, même si la religion peut être très concrète, hein, mais disons des enjeux socio-économiques qui sont quand même centraux pour une partie de son électorat, il me semble.
Et alors justement, parce qu'on aurait pu se dire avec un BJP un peu affaibli au plan électoral, je crois qu'il a perdu 3 ou 4 régions, notamment centrales, sur la fin de l'année, et également cette politique économique qui est critiquée, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité pour lui de recentrer son discours sur l'hindouisme et la politique d'hindouisation, disons ?
Si, si, c'est clairement, je pense, une des stratégies possibles. Après, je ne pense pas que ce soit suffisant pour gagner une élection dans l'ensemble de l'Inde, hein, puisque là, clairement, le BJP doit séduire dans tous les États, y compris les États qui ont peu d'intérêt pour ce qui se passe au Kerala. Il doit séduire toutes les communautés. Enfin bon, il ne séduira très probablement pas la communauté musulmane ou la communauté chrétienne, mais disons que tout le monde ne peut pas se mobiliser de la même façon pour ce temple parce que une partie, y compris une partie des hindous, ne se sent pas spécialement concernée par un temple au Kerala qui ne correspond pas à sa propre version de l'hindouisme. Donc, même si évidemment, disons, le ralliement autour de l'idée de la nation et implicitement de la nation hindoue et le noyau dur du BJP, peut-être aussi du Congrès d'ailleurs. Et je pense qu'il va effectivement chercher à le réactiver pendant la campagne. Ça ne sera sans doute pas la seule dynamique qu'il faudra mettre en avant. Mais ça, on va bientôt le savoir.
Et alors justement, dernière question, inversement, comment cette affaire va jouer pour le parti du Congrès ? Vous soulignez qu'au niveau local, effectivement, ils s'étaient opposés à la levée de l'interdiction, ils avaient soutenu les manifestants, mais c'est vrai qu'au niveau national, Rahul Gandhi avait dit « je m'oppose à ce que dit le parti, les hommes et les femmes sont égaux et les femmes devraient être autorisées à aller où elles veulent, y compris dans ce temple, sous-entendu ».
Oui, alors depuis, il a eu un autre discours un petit peu plus modéré en disant qu'il comprenait tous les points de vue. Donc lui-même est un peu en train de mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est très emblématique finalement de, à la fois du traitement qui peut être fait de la question de l'égalité entre les sexes et des droits des femmes en Inde et dans d'autres pays hein, d'ailleurs, sur le fait qu'il y a un affichage qui est très fort, mais quand il s'agit de faire des arbitrages, c'est rarement la question qui gagne, entre guillemets, entre différents arbitrages. Et sur l'ambivalence du Congrès qui est très forte sur un certain nombre de questions et un discours qui varie énormément en fonction du lieu où il est prononcé. Hein. Et ça, c'est vrai aussi de l'ensemble de la politique indienne et c'est lié au fait que c'est un très très grand pays, donc avec des régions plus grandes que la France, hein, mais oui. Des enjeux locaux et des enjeux, on va dire, fédéraux qui peuvent être assez différents et donc des positionnements des partis et des images des partis qui peuvent être très différentes. Et le parti du Congrès, selon qu'il est dans une logique donc Kerala d'opposition au parti communiste ou plutôt dans une position d'alliance avec l'ensemble de la gauche contre le BJP au niveau national, peut avoir des discours qui sont très variables. Et aussi en fonction de qui il soutient au sein de cet État.
Oui, bah merci beaucoup Virginie Dutoya, à suivre avec les élections en avril-mai.